La planèse du jazz, Laurent et Pascal Verdoux.
Bonjour à tous.
Bonsoir.
L'autre jour, nous étions à une remarquable conférence donnée par Mademoiselle Gaumont sur le peintre...
Le Caravage. Et le Caravage, c'était quelqu'un qui a laissé une trace tout à fait extraordinaire dans la peinture et italienne et même beaucoup plus qu'italienne. Et pourtant, il est mort très jeune.
Alors le fait que le Caravage soit également un peintre voyou, socialement, n'a pas tellement attiré notre attention parce qu'on le savait déjà. Mais l'âge nous a vraiment frappé, surtout que autour de lui, les grands artistes mouraient finalement, pour beaucoup, assez jeune. Et ça nous a donné l'idée de faire une émission sur les jazzmen qui ont laissé une trace importante et qui pourtant sont morts très jeunes.
Bien sûr, il nous fallait une sorte de limite dans...
L'appréciation.
L'appréciation de jeune, pas jeune. Et on a choisi 35 ans parce que c'est l'âge auquel Mozart lui-même est mort.
En laissant les traces que tout le monde connaît. Abondantes, surabondantes même. Et donc, cette émission va commencer par quelqu'un qui est mort à 35 ans, en laissant une trace importante dans le genre du jazz, même s'il n'a jamais enregistré un disque sous son nom. Il s'appelait Joe Smith. Il est tout à fait injustement oublié de nos jours au profit de Bixby Herbeck, qui était un bon trompettiste, intéressant, mais qui était, à mon avis, loin de le valoir.
Il est mort parce qu'il courait beaucoup les dames et il y a un mari jaloux qui ça lui a pas plu. Et ce mari jaloux, il lui a cassé la figure, mais de façon tellement violente que le pauvre Joe Smith en a eu de très graves séquelles et que sa descente vers son décès, bah, elle a commencé là.
C'est Buddy Tate qui nous a raconté cette histoire parce qu'il l'a... Il l'a vu. Hein,
il l'a bien connu, oui.
Ça se passait à Kansas City, parce que Joe Smith était aussi un musicien un peu bourlingueur. Bref, son état mental s'est peu à peu dégradé, et on sent dans les derniers disques qu'il a fait, parce que des chefs d'orchestre ont encore fait appel à lui, parce qu'il l'aimait beaucoup, c'était un type très populaire, avec un talent énorme. On sent une certaine perte de cohérence quand même, et puis après il a été hospitalisé dans une maison de santé, et donc il est mort à 35 ans, sans doute également atteint de tuberculose, maladie que nous retrouverons dans cette émission d'ailleurs.
On va vous passer Joe Smith dans toutes ses facultés, sa puissance, son énergie.
Ah oui, oui, là il a 25 ans, il joue avec l'orchestre de Thatcher Anderson, I'm Coming Virginia, qui est un morceau qui a laissé des traces. Dans un premier temps, dans son rôle habituel, c'est-à-dire un trompette, sachant jouer doucement sans tomber dans la mièvrerie, avec un grand talent pour exposer un thème. Et dans immédiatement après, on croit que c'est un autre trompette qui arrive. D'ailleurs, on s'y est trompé pendant très longtemps. Mais c'est toujours lui. Simplement, il imite son voisin de pupitre, le fameux Tommy Lanier. Et il joue plus en force et avec toujours une inspiration formidable.
Thank you.
Un grand trompette nous a un jour dit que chez tous les trompettistes de jazz, dans leur tête, il y avait une partie de Louis Armstrong et une partie de Joe Smith. Et le musicien suivant va bien illustrer cette considération.
Oui, il s'agit de Bunny Berrigan. Alors lui, Bunny Berrigan, franchement, c'est l'alcoolisme qu'il a perdu.
Ah oui, je pense qu'on peut vraiment pas dire le contraire. C'était un musicien blanc, trompettiste très brillant, inspiré, capable justement de mélanger le doux et le puissant d'une manière tout à fait remarquable. Et il a même eu un grand orchestre, et même à plusieurs reprises, parce qu'il a été soutenu aussi. C'est des gens qui étaient très bons. Bon, on leur pardonnait un peu leurs problèmes.
Ben oui, mais il était tellement alcoolique qu'il ne gérait pas son orchestre.
Il ne gérait pas son orchestre, exactement. Il tenait assez bien l'alcool, d'ailleurs, finalement, par rapport à la musique. Mais son foie n'a pas résisté à l'épreuve.
Et il est mort à l'hôpital.
Et il est mort à l'hôpital d'une cirrhose carabinée et à l'âge de 34 ans. Jeunes gens qui nous écoutaient, je vous signale que l'alcool est à consommer avec...
modération.
Contrairement au jazz. Le grand succès de Bunny Berrigan qu'il a vraiment lancé est un disque qui s'appelle « I can't get started », ce qui veut dire « j'arrive pas à partir ».
Around the world in a plane, I've settled revolutions in Spain, and the North Pole I have charted. Still I can't get started with you. On the golf course I'm under par. Metro-Goldwyn have asked me to star. I've got a house, a show place. Still I can't get no place with you. 'Cause you're so supreme. Lyrics I write of you, I dream. Dream day and night of you, and I scheme just for the sight of you. Baby, what good does it do? I've been consulted by Franklin D. Greta Garbo has had me to tea. Still I'm broken-hearted, 'cause I can't get started with you. Thank you.
suivant, pauvre homme. Vraiment, sa mort n'a rien à voir avec une vie dissolue.
Non.
Il est mort d'un AVC.
Eh bien, dans cette galerie de portraits que nous faisons aujourd'hui, tout n'est pas dû au cocktail drogue. D'ailleurs, il y a très peu de drogue dans ces histoires-là. On n'est pas encore à l'époque. Et c'est très curieux d'ailleurs, parce que les drogués notoires à l'héroïne, aux drogues dures, ne sont pas morts très jeunes. Ils ont généralement atteint plus que 35 ans, parce que simplement, on soigne mieux les gens plus tard.
Ouais.
Là, nous avons nécessairement affaire à une époque où les gens sont beaucoup moins bien soignés. Et on ne retrouve pas l'alcool à chaque page, la preuve, avec Sonny Parker.
Oui, ce pauvre Sonny, avec cet AVC, bon, ben, sa carrière s'est arrêtée pendant 2 ans, et puis après il est mort.
Mais il en a fait un deuxième, et il est mort. D'ailleurs, nous avons tous dans nos entourages des gens qui font des AVC, et c'est bien triste à voir, surtout quand il s'agit d'un grand artiste, car Sonny Parker, qui est mort à 32 ans...
Oui, c'est jeune, là, vraiment. Ben,
a arrêté sa carrière à 30.
Ouais.
C'était le chanteur de l'orchestre de Lionel Hampton. Et ça s'est passé, son premier AVC, pendant une tournée en Europe. Et ça s'est passé à Valenciennes, figure-toi.
Vous me direz, mais vous allez nous parler que de gens qui sont morts. Oui, mais ce qui est important, c'est la trace qu'ils ont laissée, on l'a dit. Hein. C'est pour ça qu'on fait cette émission.
C'est bien.
Quand même.
Et là, nous allons passer un morceau, parce que c'était, il faut le dire aussi, Sonny Parker, c'est un des plus grands blues shouters, c'est-à-dire les crieurs de blues comme Jimmy Rushing ou Mick Joe Turner, c'est certainement le seul de leur niveau. Et là, ils nous chantent Worried Life Blues. Et on attire aussi l'attention sur un trompettiste qui l'accompagne par moments dans ce disque, merveilleusement, et qui s'appelle Walter Williams.
But one day, baby, I ain't gonna worry my life anymore. So many days since you've been gone, without your mama, how can I go on? But one day, baby, I ain't gonna wear my life anymore. Well, anymore.
Maintenant, c'est au tour de Chewberry. Alors, Chewberry, c'est un saxo-ténor. Lui, il a été un peu victime de son métier, c'est-à-dire qu'il faisait énormément de tournées. Et comme beaucoup de musiciens, il prenait sa voiture parce qu'il allait souvent dans des endroits, je dirais pas perdus, mais enfin assez lointain.
Non, mais il faut quand même se rendre compte d'une chose. Le jour où ça s'est passé, Chouberry, qui était une sorte de directeur musical du Big Band de Cab Calloway et qui a beaucoup fait pour que ce Big Band existe à côté de la vedette. C'est l'ancienne que le Big Band a enregistré des disques, comme on va entendre, sans la vedette. Chouberry était simplement au volant de sa voiture avec deux autres musiciens de l'orchestre en train de rallier un patelin de l'Ohio à un autre patelin qui était au Canada, dans l'Ontario. Et quand tu regardes sur la carte le trajet que ça
fait... Ça fait un sacré trajet.
Tu te rends compte ? Alors après une soirée, et les soirées, c'était une soirée dansante, ça durait très longtemps, c'était pas des concerts. Eh bien, Cab disait à ses gars... Bon, bah écoutez les gars, rendez-vous après-demain à Machin, Ontario. Et entre les deux, il y avait 2000 km.
Oui.
Enfin, quand je dis 2000, il y en a peut-être plus. Oui. Je ne sais pas bien.
Donc, c'était des occasions, malheureusement, d'avoir des accidents. Hein. Et c'est ce qui est arrivé.
Et c'est bien ce qui est arrivé. Le pauvre Chouberry a dérapé sur la route. La voiture a tapé une pile de ponts. C'était du béton, plus solide que la voiture. Les deux passagers n'ont pas été grièvement blessés. Mais lui, il a été sorti d'là dans le coma. Il est mort 4 jours après. Et c'était un des plus grands saxophonistes et de l'histoire du jazz. Ça a été une perte énorme, Chouberry.
Oui, 31 ans. Hein.
31 ans. Voici un morceau justement enregistré avec l'orchestre de Cab Calloway. C'était sa spécialité dans les soirées de l'époque. Et ça s'appelle « Je n'ai pas l'ombre d'une chance avec vous ».
Ce qui se dit en anglais « Ghost of Chance ».
Ça va très bien au saxo ténor, ce morceau-là. Chouberry. Suivant de cette émission s'appelle Jimmy Harrison. Ça nous renvoie un peu à Joe Smith. D'ailleurs, il a été à côté de lui chez Fletcher Anderson pendant quelques années parce que c'est un musicien qui n'a jamais rien enregistré sous son nom et on le connaît au travers d'une trentaine de solos simplement. Mais alors,
lesquels solos ?
C'est déjà lui qu'on a entendu tout à l'heure dans I'm Coming Virginia. Et beaucoup de gens, d'historiens, considèrent que Jim Harrison est le plus grand trombone de l'histoire du jazz. L'inventeur du style de trombone, autre que le style Nouvelle-Orléans original, très influencé par Louis Armstrong, un virtuose du trombone, hein, ça, et sachant le faire oublier d'ailleurs.
C'est l'homme de référence, hein, quand on parle de trombone.
Et avant tout, c'est un très grand narrateur. C'est-à-dire que quand on dit d'un type qui joue un solo, il raconte une histoire, c'est quand même très difficile à expliquer.
Raconter une histoire, c'est avoir dans sa phrase musicale un début, un milieu, une fin.
Comme une histoire.
Exactement comme une histoire.
Et d'ailleurs, elle peut se mimer. J'ai connu un très grand mime comme ça, capable de mimer les solos des musiciens qui racontaient une histoire.
Et ça expliquait d'ailleurs un peu mieux la musique aux gens qui l'entendaient.
C'est vrai.
Alors lui, ben lui, il est mort d'un cancer de l'estomac à 31 ans, pauvre.
Et alors ça l'a surpris vraiment.
Très brutalement.
Du jour au lendemain. Ouais. Il ne savait pas qu'il avait ça. Et il est mort très, très rapidement, puisqu'il enregistrait peu avant sa mort avec l'orchestre de Chick Webb. Enfin là, nous allons l'entendre avec un orchestre peu connu, qui était l'orchestre de Charlie Johnson. Le morceau s'appelle The Boy in the Boat. Nous ne vous dirons pas ce que ça veut dire. D'ailleurs, ceux qui ont de l'imagination comprendront peut-être. Et là, le solo de Jimmy Harrison met en relief aussi bien un son magnifique et son talent de narrateur. Voilà une histoire au trombone, juste après l'exposé du thème.
Thank you.
faut quand même savoir que ce Jimmy Harrison avait quitté très tôt le domicile familial, parti les mains dans les poches, avait bourlingué toute son adolescence avec des orchestres de cirque et qui faisait le clown. Il avait appris à imiter un comédien noir très en vogue à l'époque, qui s'appelait Bert Williams, et il faisait le clown avec ça, et quelquefois en duo avec un clown blanc ou un locus, je ne sais pas bien. Et puis il a appris le trombone tout seul, et quand on entend dire « Yes sir » à la fin du morceau qu'on vient d'entendre, on se rend compte qu'il a aussi une voix de trombone, et c'était un formidable chanteur. Un jour, on écoutera un fameux morceau resté célèbre pour ça. Et maintenant, nous descendons encore d'un cran, car nous sommes avec trois musiciens éminents, mais éminents, hein, le dessus du panier, qui sont tous les trois morts à 30 ans.
Alors, le premier de cette trilogie, c'est Chick Webb. Ah, alors, lui, il était né avec une maladie osseuse très, très grave, qui faisait qu'il était déformé et nain.
Il avait une tuberculose de la colonne vertébrale. Et il en est mort. D'ailleurs, il a fini par se faire opérer, et il est mort au réveil, en ouais. disant aux gens qui l'entouraient, qui étaient venus le voir, « Excusez-moi, il faut que je m'en aille. »
Ouais, c'est fou, ça. Hein, il avait pris, alors c'est ça qui est sidérant, ce petit corps débile, fragile, déformé. Mais cet homme-là, avec un corps comme celui-là, il avait choisi l'instrument qui nécessitait le plus de muscles, le plus de force, le plus d'énergie, la batterie.
Il avait une batterie spécialement en fait pour lui, avec des pédales de grosse caisse adaptées, les cymbales à la hauteur, enfin tout était prévu.
Bah oui, bien sûr, parce qu'il faisait même pas un mètre...
Il faisait 1m30.
1m30, enfin, et...
Mais alors, il paraît qu'il avait une largeur d'épaule de footballeur américain.
C'est ça, il s'était développé tout ce qu'il avait pu développer des épaules et des bras.
Et alors, à côté de ça, naturellement... Il n'y a pas que la puissance. Il avait une technique, une aspiration à la batterie absolument extraordinaire. Il était le chef de l'orchestre attitré du Savoy. C'est lui qui a pris la jeune Ella Fitzgerald dans son orchestre à contre-cœur parce qu'il a fallu lui tirer un peu la manche pour qu'il l'accepte.
Elle avait 16 ans. Et il ne voulait pas lui faire confiance au départ.
Il était comme tous les chefs d'orchestre, il se méfiait des chanteuses. Et puis, il a très vite compris que son orchestre aurait beaucoup de succès aussi grâce à la chanteuse. Et après, il a joué le jeu et on sait ce qu'est devenu Ella Fitzgerald. Chick Webb était un modeste qui n'a pas enregistré de disque en solo de batterie ou mettant sa batterie en valeur. Il a enregistré avec son big band. Mais il y a quand même de temps en temps des disques où on l'entend mieux que d'autres, où il est quand même très présent. Et en voici un, très célèbre, qui s'appelle
Liza.
Thank you.
aussi, c'est l'âge auquel est mort George Thomas. Ça nous renvoie à Joe Smith.
Oui, parce que en réalité, sa mort est fort liée à Joe Smith, puisqu'il est mort dans un accident de voiture et c'était Joe Smith qui conduisait.
George Thomas était l'alter ego de Joe Smith, ou Joe Smith l'alter ego de George Thomas. Ils étaient comme les deux doigts de la main. Et Joe Smith, qui passe pour un type donc très introverti et qui n'avait pas d'amis, en fait, qui était pas lié, n'avait que celui-là. Cette histoire-là est restée assez mystérieuse parce que les uns disent qu'ils étaient complètement bourrés tous les deux et que c'est pour ça qu'ils ont eu l'accident.
Et les autres disent qu'en réalité, ils avaient crevé un pneu, qu'ils ont changé le pneu et que naturellement, il y a quelqu'un qui est arrivé, qui ne les a pas vus et qui leur est rentré dedans.
Et qui a fauché
Qui a fauché George Thomas.
On ne saura jamais la vérité sur cette histoire-là. Toujours est-il que Joe Smith n'a pas été blessé et que George Thomas a été tué. Ce qui accrédite un peu d'ailleurs la deuxième version.
Oui, peut-être. Hein, oui.
Cette mort de George Thomas a été un événement très grave pour Joe Smith, et c'est d'ailleurs de ce moment-là qu'on peut commencer à comprendre une certaine instabilité de comportement.
Oui, tout à fait.
Ce George Thomas était un chanteur très populaire dans le milieu noir. Ses disques avaient beaucoup de succès, il en a évidemment enregistré très peu. Et à l'époque où il a commencé à être connu, il était, comme Joe Smith, au Mackinac, Cotton Pickers. Et voici un disque où ils sont là tous les deux. C'est un morceau de James P. Johnson, un très joli morceau.
Qui s'appelle « If I Could Be With You ».
Just one hour tonight.
C'est ça. Si je pouvais être avec vous, juste une heure cette nuit. Waouh.
Et là, le trompettiste qui joue magnifiquement cette mélodie, c'est Joe Smith.
Et le chanteur, c'est George Thomas.
To say to you, I did wrong when I let you go away. Now I dream about you night and day. I'll be happy if I had you by my side. I'd be happy if I knew you were my bride. If I could be with you for an hour tonight and free to do the things I might, I want you to know that you couldn't go until I showed you that I loved you so. If I could be with you, I'd love you strong. If I could be with you, I'd love you all night long. I'm telling you true, you'd be anything but blue. If I could be with you for just 1 hour, if I could be with you, if I could be with you, 1 hour tonight, and free to do the things I might. I want you to know that you couldn't go. Ba-ba-dee-da-dee-dee-dee. If I could be with you, I'd love you strong. If I could be with you, I'd love you all night long. I'm telling you true, you'd be anything but blue. If I could be with you just for
j'entends jouer Joe Smith, plus je pense qu'il va falloir qu'on fasse une émission sur lui.
Ah, mais certes.
Je crois qu'une émission sur Joe Smith et une autre sur Jimmy Harrison ne serait pas du luxe.
Ah, vous aimerez.
Je pense que vous aimerez, oui. En attendant, voici un autre chanteur. Celui-là joue du piano et c'était un musicien de blues. Et il s'appelait...
Leroy Carr.
Que ce soit au piano ou en chantant le blues, Leroy Carr était un personnage de vraiment très haut niveau, je trouve. Et il était immensément populaire après un disque que nous allons d'ailleurs entendre, qui s'appelle How Long Blues.
Il est mort, on peut dire quand même, c'était lié à l'alcool.
Ah oui, revoilà l'alcool.
Le revoilà. Il est mort de néphrite aiguë et pour son malheur, il avait comme ami de cœur.
Et guitariste.
Et guitariste. Quelqu'un qui était en même temps bootlegger.
On dit de Scrapper Blackwell, qui était, je crois, le cousin de Big Bill Brunzi d'ailleurs, qu'il était un bon guitariste, mais un excellent bootlegger. Tout ça se passe à l'époque de la Prohibition. Et se procurer de l'alcool ou en fabriquer n'est pas évident.
Un bootlegger, c'est quelqu'un qui vous fournit de l'alcool, en général frelaté. Mais on n'était pas très difficile parce qu'on n'avait pas le droit d'en prendre.
Et le pauvre Leroy Carr en est mort. Mais ça a été un tel événement dans le monde du blues. Mais alors vraiment, un deuil terrible, que plusieurs chanteurs de blues ont enregistré un morceau sur sa mort.
Comme un hommage.
Et Scrapper Blackwell, qui donc le ravitaillait, a été tellement frappé par cette histoire qu'il a arrêté la musique peu après. How long blues. Duke Ellington arrive de son Washington natal à New York, il rencontre un trompettiste étonnant qui s'appelle James Miley.
Surnommé Bubber Miley. Alors Bubber...
On ne sait pas très bien.
On ne sait pas très bien. On a supposé que ça venait peut-être de cette demi-sphère qu'il mettait au bout de sa trompette. Et pour vous dire la vérité, un débouchévier en caoutchouc.
Sans le manche.
Sans le manche, naturellement. Et qui avait donné sa spécialité. C'était le premier à avoir inventé ce truc-là.
C'est un outil qui vraiment permet de faire parler une trompette ou un trombone presque comme une voix. C'est assez extraordinaire.
On appelle ça trompette wah-wah.
Et ce fameux Bubber Mailey, c'est comme ça qu'il est, il est connu, en fait, il a été l'inventeur de ce style et c'est de là que Ellington est parti pour toute une période de son activité.
Qu'on a appelé le style jungle.
Avec lequel le Cotton Club s'est trouvé en face, puisque ça a été l'occasion, à l'époque de la Harlem Renaissance, de monter un tas de spectacles évoquant la jungle, l'Afrique, des choses comme ça. Et Bubber Mailey, malheureusement, jeune, buvait beaucoup trop pour que Ellington, qui était quelqu'un de sérieux,
rigoureux,
et de rigoureux là-dessus, ne s'en sépare pas. D'ailleurs, c'est venu à des moments où il était incapable de jouer à cause de ça. Donc, il s'est fait virer au profit d'un type extrêmement sérieux qu'on a bien connu, qui s'appelait Cootie Williams, qui était le continuateur de ce style. Et Bubber Mailey s'est ressaisi après, ça a dû lui faire un coup. Hein.
Quand on est viré de chez Ellington, on a quand même un peu une prise de conscience.
Hein. Il s'est repris.
Mais en réalité, après, il est mort de tuberculose. Et jeune, hein, puisqu'il avait 29
ans. Il avait 29 ans. Et ses derniers disques, donc, c'est pas chez Ellington, mais enfin, il montre qu'il y a encore un bon musicien derrière, un peu fatigué. Et peu à peu, il est obligé d'arrêter et il est mort au sanatorium.
Oui, vous pensez un trompettiste avoir la tuberculose, avoir des problèmes de poumons.
Ah, c'est impossible.
C'est pas facile de jouer. Hein. Il faut quand même reconnaître, à leur décharge, à ces musiciens, que leur vie n'était pas facile du tout, parce que c'était des horaires totalement décalés, hein, mais pas du tout réguliers. On pouvait leur demander de jouer toute une nuit, ce qui épuise quand même quelqu'un, même de jeunes. On était aussi dans des endroits qui étaient quelquefois extrêmement mal aérés.
Malsains.
Malsains. Ce n'étaient pas des endroits où on pouvait mener une bonne santé facilement, il fallait être très rigoureux.
Et puis New York, ce n'était pas une ville indemne de pollution. Hein.
Et puis, pour terminer, il y avait le fait que la médecine, je ne dirais pas qu'elle était assez balbutiement, mais
ah bah à l'époque, quand on faisait la tuberculose, on ne savait pas la soigner.
Voilà, déjà. Mais pour eux, les médecins, il n'y en avait pas beaucoup. Puis alors, c'était des gens très jeunes qui avaient l'habitude de, j'allais dire, de s'auto-soigner en disant « Oh, ça passera !»
Oui, ça passera, exactement. Tu dis qu'on les obligeait à, mais ils étaient bien volontaires, très souvent.
Oui.
Ces types-là allaient, après le travail, allaient rejouer ailleurs. Et on peut dire qu'il y a des périodes de la vie de certains musiciens où ils ont joué 14 heures par jour.
Oui, en dormant pratiquement pas.
Hein. D'où d'ailleurs la virtuosité qu'ils ont acquise.
Ah oui, c'est vrai.
Certains. Voici un disque de Duke Ellington où on entend Bubber Mailey. Son solo n'est pas très long, mais on ne peut pas faire plus voix que ça. Et en plus, ça a une très grande puissance dramatique, je trouve, ce solo.
Take it easy. Thank you.
Robert Johnson, chanteur et guitariste de blues, est encore dans toutes les mémoires grâce à sa légende, qu'il a d'ailleurs, je pense, soigneusement entretenue lui-même.
À la légende, c'est qu'il disait que s'il jouait si bien de la guitare, il n'était pas forcément modeste, vous voyez.
Ah mais non, il jouait très très bien.
Mais s'il jouait donc si bien de la guitare, c'est parce qu'en réalité, il avait fait un pacte avec le diable, qu'il aurait rencontré à un carrefour de chemin.
Où s'étant perdu, il s'était endormi.
N'est-ce pas ?
Il a senti une présence au-dessus de lui, une sorte de grande ombre noire, qui a pris sa guitare, a joué trois notes extraordinaires, l'a reposée et a disparu. Et à partir de là, Robert Johnson a réapparu sur la scène du blues, où il n'était pas très considéré avant, mais il avait fait un retour sur lui-même pendant un an ou deux, où je crois travailler beaucoup surtout. Et il réapparaît, alors là, il fait sensation, parce qu'il a fait tellement de progrès, et puis alors il joue vraiment très très bien.
Il a trouvé ce système, effectivement, tout de suite, ça lui a donné une notoriété un peu sulfureuse.
Et de ce Robert Johnson, il nous reste la légende, bien sûr, 29 plages enregistrées, 3 photos et 3 tombes, car on ne sait pas exactement où il est enterré. C'est une sorte d'illustration du bonneteau funéraire. Où il est ?
Il était non seulement un très grand musicien, mais alors un très bel homme.
Très bel homme et très cavaleur.
Oui. Et c'est ce qui va être un peu sa perte. Beaucoup disent qu'il est mort parce qu'un patron de bar dont il avait séduit la femme lui a versé de la strychnine dans son verre et il est mort de ça.
Oui, le whisky à la strychnine est un breuvage redoutable. Et le pauvre Robert Johnson a agonisé pendant 3 jours avant de passer de vie à trépas.
À 28 ans.
À 28 ans. Naturellement, les chercheurs, parce que c'est quand même, il a laissé un nom, les chercheurs ont voulu en savoir plus long et on a retrouvé le certificat de décès de Robert Johnson pour savoir de quoi exactement il était mort. Et nous avons vu ce certificat.
Et vous savez ce qui a marqué dessus ?
En face de cause de la mort.
Cause de la mort. No doctor. Pas de médecin.
Le mystère reste entier et voici par Robert Johnson et sa guitare.
Last fair deal go down.
Tout un programme. Voici vraiment maintenant un cas extrême. On n'a aucune photo de Pinetop Smith, qui s'appelait Clarence. On peut déduire de son surnom, quand même.
qu'il était grand, puisque pine top, ça veut dire le sommet du sapin. C'était donc plutôt un type longiligne.
Jean-Memphis Slim comme physique, qui jouait formidablement bien du piano, c'était un pianiste de blues et de boogie. En fait, c'est à lui qu'on doit la première trace enregistrée de Boogie Woogie. Alors il passe naturellement pour en être l'inventeur, c'est pas tout à fait ça, mais c'est le premier disque de Boogie Woogie qui existe.
Il s'est trouvé pris dans une rixe, dans un dancing de Chicago. Alors quand on dit pris dans une rixe, c'est pas forcément qu'il y participait. Hein.
Mais il était au piano, lui.
Mais voilà, il était au piano et ça s'est mis à tirer dans tous les sens. Et on suppose que c'est une balle perdue, qu'il l'a atteint.
Quoique certains disent que personne n'a pu savoir s'il était ou non la cible de la balle en question. Et de toute façon, le pauvre Pine Top Smith...
Ben, il est mort à 24 ans d'une balle qui n'a pas été perdue pour tout le monde.
Even carried to her bed. I cooked her breakfast, even carried to her bed. Now she take one bite and threw a teacup at four pints of it. I done spend my money till my bank account's done got low. I done spend my money till my bank account's done got low. She had enough to tell me, Pine Top, you got to go. Now I've combed her hair, even manicured her fingernails. Now I've combed her hair, even manicured her fingernails. Every time I get in trouble, she let me go to jail. I'm gonna buy myself a graveyard of my own. I'm gonna buy myself a graveyard of my own. I'm gonna bury that woman if she don't let me in alone. I can't use no woman if she can't help me rob and steal. I can't use no woman if she can't help me rob and steal. Wake up early in the morning, can't eat a decent meal. I'm going down on State Street just to buy me a gallon of booze. I'm going down on State Street just to buy me a gallon of booze. Cause my best gal done left me with these fine top blues.
C'est tout à fait étonnant la légèreté avec laquelle il joue le boogie. Parce que le boogie, c'est souvent en force. C'est un truc très martelé, et non.
Ah là, vraiment, c'est le boogie dans toute sa splendeur au point de vue des nuances. Et c'est très rare d'entendre le boogie jouer avec des nuances comme ça. Et c'est pourquoi beaucoup de gens considèrent que Pine Top Smith fut le plus grand pianiste de boogie. Et on a de la chance d'avoir ses disques parce qu'il les a enregistrés 3 mois avant sa mort.
Ah oui.
6 faces, c'est tout ce qui reste de lui. Donc, pas de photos, rien. C'est même pas où il est enterré. Mais il y a 6 faces de lui qui nous sont restées. Et tu sais pas le plus beau ? L'endroit où il s'est fait tuer. Il y était entré par hasard en rentrant chez lui, parce que le piano était libre, il était allé jouer un petit peu comme ça pour le plaisir. Et là, il y a une querelle au bar et tout est parti de là.
Ça s'appelle « C'est la faute à pas de chance ».
Oui, vraiment, c'est le cas de le dire. Mourir à 24 ans, c'est vraiment terrible, hein. Mourir à 23 ans quand on est un génie de la guitare, c'est certainement encore pire et c'est ce qui est arrivé à Charlie Christian.
Dans le cas de Charlie Christian, on peut dire qu'il a creusé sa propre tombe lui-même. Hein. Parce que lui, c'était la foire idon, les femmes,
Surtout les femmes.
Oui, il a eu la tuberculose aussi. Il a été hospitalisé. Mais pendant qu'il était à l'hôpital, il y avait les copains qui le ravitaillaient en marijuana.
En alcool.
En alcool et même en femmes.
Il manquait de rien à l'hôpital. Et ce n'étaient pas les infirmières. Quoique.
Un soir, ils l'ont fait évader pour aller dans une, ce qu'on appelait une party, c'est-à-dire une fête, quoi.
Ils l'ont rapatrié à l'hôpital avec une magnifique pneumonie dont il est mort juste après. Voilà comment est mort Charlie Christian, vraiment la chandelle brûlée par les deux bouts. Et c'est vraiment
total.
Une perte incroyable pour le jazz, parce que Charlie Christian était un génie de la guitare qui a révolutionné tout l'art de la guitare, à peine âgé de 20 ans. Et après lui, les choses n'ont plus du tout été les mêmes pour les guitaristes qu'avant. Tous les guitaristes actuels et passés depuis la guerre doivent quelque chose à Charlie Christian, et généralement beaucoup. Il a naturellement très peu enregistré, mais du temps où Benny Goodman en avait fait la vedette de son orchestre, à cause de son jeune âge et de son talent, il a laissé une face enregistrée avec une partie des musiciens de Goodman, où on l'entend vraiment assez longuement, qui s'appelle
Solo Flight.
Petit génie de la guitare, et à la même époque, voici le petit génie de la contrebasse, le musicien qui a révolutionné le jeu de contrebasse à tel point que, comme pour la guitare avec Charlie Christian, et bien pour les contrebassistes, il y a eu avant et après Jimmy Blanton.
Alors lui, le pauvre, c'est vraiment pas de sa faute s'il est mort si jeune, 21 ans.
21 ans, et c'était un musicien socialement extrêmement sérieux. Une sorte d'enfant prodige du violon et de la contrebasse qui avait opté pour la contrebasse et qui avait acquis une telle réputation ado, déjà, que finalement Duke Ellington l'a pris comme contrebassiste dans son orchestre.
À 19 ans.
Qu'il avait même enregistré, chose unique dans l'histoire Ellington, des duos piano-contrebasse avec lui. Et un beau jour en Californie,
il s'est senti pas bien, il a été à l'hôpital et là, on lui a diagnostiqué une tuberculose très, très avancé.
Il a été hospitalisé, il a arrêté sa carrière aussitôt. Il avait 20 ans, il est mort un an plus tard. Ça fait froid dans le dos. Nous prions nos auditeurs de nous excuser de cette émission.
Un peu tristounette quand même.
Un peu tristounette, parce que c'est quand même aussi de grands gâchis que nous décrivons. Des gens qui sont morts si jeunes et qui avaient encore tellement de choses à dire.
Oui, mais justement, on a voulu leur rendre un peu hommage, qu'ils aient provoqué leur mort ou qu'au contraire, ils n'aient pas eu de chance. C'était de tels musiciens que ça valait la peine qu'on en parle.
Voici Jimmy Blanton, bassiste du grand orchestre de Duke Ellington, dans un morceau qui s'appelle
Bojangles.
Bojangles, c'était le surnom de l'illustrissime danseur et danseur à claquettes
Bill Robinson.
Et Duke Ellington avait tenu à rendre hommage à Bill Robinson en faisant son portrait en musique. Donc voici ce portrait en musique avec, écoutez bien la contrebasse, le seul et unique
Jimmy Blanton.
C'était la planète du jazz.
À la planète prochaine.